Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charlie, je me pose une question.
Vas-y.
En réécoutant l'émission, j'ai l'impression qu'on sait pas bien si c'est une émission de droite ou de gauche.
Sérieux?
Ou alors peut-être si on s'appelle par Jupiter, c'est parce qu'on est ni de droite ni de gauche.
Mais enfin Alex,
D'accord, hier tu dis ça.
Quatrième près, Florence Sestec.
Voilà, ça sonne clairement de gauche.
Ça j'ai bien l'impression.
Et après Clara elle dit ça.
Une femme qui porte des escarpins Python ne peut pas être complètement sans qualité.
Elle a dit ça?
Mais c'est de droite, ça, quand même.
Indéniablement,
Oui.
Mais Clara, c'est pas complètement l'émission non plus. On aime son décalage.
Tu veux dire qu'elle est de droite, quoi.
Ça, faut pas l'exclure.
Ouais, moi, je pensais ça aussi. Ouais. Et après.
Faut que les riches se mettent au boycott.
Boycottons Christian Dior.
Voilà, ça, c'est de gauche, quand même. Boycottons Christian Dior, c'est un acte fort.
Ah, tu vois, parfois, on juge les gens.
Exactement. Et moi, j'ai eu ça avec toi.
Avec moi?
T'as eu un réflexe de droite, quoi.
Vous conseillez la lecture de Paris Match?
On conseille vraiment la lecture de Paris Match, on fait ça?
Oui, des belles photos.
Conseiller la lecture de Paris Match, ça c'est de droite, Charline, je suis désolé.
Ça a dû m'échapper.
Mais donc on sait pas bien dire si l'émission elle est de droite ou de gauche. Après, de toute façon, t'as bien expliqué le concept en sortie de disque.
The Last Shadows Puppet qui chante My Mistakes Were Made For You, ce qui est un petit peu la devise aussi de cette émission.
Voilà, mes erreurs ont été faites pour vous, ça va leur plaire ça au public.
En plus, c'est avec leur argent qu'on fait des erreurs.
C'est gênant. Faire des erreurs avec de l'argent public, c'est de gauche.
Bonjour la France Inter, nous sommes le vendredi 8 juin.
C'est vrai.
Et il faudra donc tenir bon jusqu'au 18 juin pour lancer un appel à la libération de Nicolas Hulot. À ce stade, nous envisageons une évasion par hélicoptère. Voici le menu de cette émission. Le pays manque d'enseignants car le métier n'est pas assez attractif. La Cour des comptes a donc une idée, les recruter à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5. Alors, à partir de Bac plus combien est-on apte à enseigner alors?
C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants.
Un nouveau métier vient d'éclore aux États-Unis. Préparez-vous à ce qu'il arrive donc chez nous. Ce job, c'est le job de chargeur. Chargeur de trottinettes électriques. Ce qui consiste à ramasser les trottinettes la nuit, généralement, pour les ranger et les charger chez soi avant de les remettre en circulation.
Non mais tu veux finir comme Claude François, électrocuté, espèce d'andouille.
En cette saison, personne n'est à l'abri de cette question. Et si on partait en vacances ensemble? Les conséquences peuvent virer au drame si vos amis comptent les rouleaux de PQ. On en connaît, lui par exemple.
Bon, je m'excuse, mais je voudrais poser une question là. Il y a quelque chose de prévu pour le repas là?
Avec lui, c'est même pas les vacances ensemble qu'on envisage, c'est carrément la retraite.
La retraite.
C'est Alex Vizorek.
Vous ne comptez pas les PQ, vous?
Non.
Très bien.
Bonjour, Jean-Philippe Benoît.
Je suis pas sûr que la retraite va être longue. Autour de la table, une belle équipe en ce vendredi à 17h20. Il plaide coupable pour la playlist de France Inter et j'espère secrètement qu'un jour il sera condamné à perpétuité sur Champ de France. C'est Djoubaka, bonjour.
Je vais vous étonner aujourd'hui.
C'est pas vrai.
Ah si.
Michel Thor.
Mais qui?
Ça va être concept.
Ça me rassure pas. À 17h30, celle qui ne veut pas admettre qu'il y a une mort après la vie. L'intervieweuse de l'au-delà, Christine Gonzalez.
Et je vous donne tout à l'heure rendez-vous en terre inconnue. J'emmènerai donc une célébrité vers une destination inconnue, dans l'au-delà bien sûr, mais cette fois à la rencontre d'un peuple aux mœurs très différentes des nôtres. A tout à l'heure.
Très bien, et à 17h40. Très souvent, après mes brèves, elle vient me dire qu'elle n'a pas compris, car dans Ivre virgule, elle ne voit pas l'intérêt de ce virgule. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui?
Très bien,
je fais l'invité. Avec joie, je fais l'invité.
Vous préciser qu'à 17h55, il n'est pas l'héritage vocal de Johnny Hallyday. C'est sans doute pour ça que Laetitia ne fait aucun obstacle à ce que Frédéric Fromet vienne nous chanter sa chanson.
Et voici celui qui va se faire faire par Juliette.
Celui qui va élever l'open space jusqu'à tutoyer le cloud. Vous êtes agrégé de philosophie, vous enseignez à l'université de Nice et en classe prépa. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale. Votre travaux universitaires portent notamment sur l'islam. Vous avez présenté une émission sur cette antenne intitulée « Cause commune, tu m'intéresses », puis sur France Culture avec « Culture d'islam ». Vous êtes aussi haut fonctionnaire chargé de diverses missions. Vous êtes, je vous laisse nous le dire,
Je suis... Attendez, comment je m'appelle déjà? Abdennour Bidar.
Oui. Ça m'a l'air d'être ça.
On espère, oui.
Je vous rassure, je suis dans le civil. Hein. Là, je suis pas en tant qu'inspecteur général, je suis là en tant que philosophe. C'est encore, vous allez me dire, plus grave.
On préfère. C'est pour ça qu'on vous a fait venir, Abdennour Bidar. On est ravis de vous accueillir parmi nous pour nous présenter et parler de cet ouvrage qui s'intitule Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, qui publie des tas de bouquins qu'on adore d'ailleurs, cette maison d'édition. Première question, Abdennour Bidar, car il y a ici un plaidoyer et aussi une explication concrète qu'on peut mettre en place, pourquoi pas le revenu universel. Donc ma première question, est-ce que passer sa vie à la gagner, c'est vraiment une aberration ?
Ah bah complètement, travailler plus pour gagner plus, pour dépenser plus, pour consommer plus, ça c'est le cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés par le méchant capitalisme, et je dis ça à moitié en rigolant, hein. C'est-à-dire que quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'on a des existences qui sont en effet, comme je le dis dans le bouquin, asservies par le travail et la consommation. Je pense qu'en tant qu'être humain, on peut ambitionner un petit peu mieux, et comme le disait déjà Hannah Arendt, attention, citation philosophique pour tous ceux qui préparent le bac, eh bien je crois qu'on est très nombreux, très nombreuses aujourd'hui à vouloir rééquilibrer nos vies entre le travail et autre chose, c'est-à-dire l'opportunité qui pourrait être donnée à chacun, justement par le revenu universel, par le temps libéré, eh bien de se consacrer davantage à ses aspirations profondes, même si, bien entendu, on peut le faire aussi, enfin, quand on en a la chance, dans le travail lui-même.
Alors, se libérer du travail et aussi se libérer de cette espèce de chantage que les entreprises et l'État jouent un petit peu, c'est le début, le point de départ de votre livre, en disant est-ce que vous voulez qu'il n'y ait plus d'emplois et,
Bah attendez, c'est plus que un petit peu. C'est-à-dire, c'est un chantage tout court. C'est-à-dire, tu travailles ou t'as pas d'argent. Tu travailles ou tu te retrouves dans l'exclusion. Donc, c'est cette violence, je dirais, que j'ai essayé d'amener à la conscience dans ce bouquin. La conscience qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire que si moi, demain, je décide qu'en fait, en réalité, j'ai envie de suivre ma vocation, mes aspirations profondes, etc., mais que tout ça ne correspond pas pour moi à la possibilité d'un travail rémunéré, bah, je peux toujours être, je dirais, une sorte de héros sacrificiel qui va dire, bah, je vais vivre d'amour et d'eau fraîche et malgré tout suivre obstinément ma voie. Sauf que, en effet, je vais me retrouver dans la marginalité et l'exclusion. Et je crois qu'aujourd'hui, la crise du travail qui est générale dans nos sociétés, c'est-à-dire pas seulement les souffrances au travail, pas seulement le fait qu'on ne s'épanouit pas forcément dans son travail, mais aussi le chômage, les minima sociaux, les travailleurs pauvres, etc., etc. Tout cela aboutit à une crise du travail qui nous oblige à aller chercher la solution en dehors du système.
Ça c'est le constat. Ouais. Mais donc vous avez plein de propositions brillantes, donc j'imagine.
Oui,
pas brillante. Non, pas brillante. Vous savez, le philosophe quand il est brillant, c'est qu'il est jeune.
Après, ouais, mais vous, c'est un doute. On ne sait pas. Si
j'allais venir à Abdennour Bidar.
Ah non, moi je suis plus jeune du tout. Je vous rassure. Non, donc je suis devenu un peu plus concret.
Vous mettez à quel âge, pas jeune, plus jeune?
Vous savez tout ça, c'est dans la tête.
Attendez, parce que justement dans votre ouvrage Libérons-nous, Abdennour Bidar, il y a une partie très intéressante, c'est que c'est vrai que ça pourrait paraître un vertige parce qu'on est tellement conditionné depuis l'enfance à être cadré, à travailler, à devoir travailler, etc. Qu'on se dit le jour où ce revenu universel est mis en place, on se trouve devant un vide vertigineux.
Exactement.
Alors, vous avez des idées, vous avez des propositions pour le, on a envie de dire pour le combler, mais c'est pas combler. Qui serait le bon mot finalement
pour le combler et puis surtout pour connaître aussi quelles sont ses aspirations profondes, parce évidemment. Que c'est pas le tout, tout le monde peut en avoir, mais c'est pas si facile que ça d'aller les connaître.
Bah non, surtout que rien ne nous apprend à le faire aujourd'hui dans la société où on est, hein. Comme le dit le premier qui a réfléchi là-dessus, c'est un peu inattendu comme référence, c'est John Maynard Keynes, le grand économiste dans les années 30. Il dit, si on propose, et il le voyait vraiment comme le futur de l'humanité, à l'humanité de beaucoup moins travailler, parce que, eh bien, grâce à la technologie, nos machines vont produire toujours plus ce que nous produisons nous-mêmes aujourd'hui. Donc, il y aura de moins en moins de travail humain. Il dit le vieil Adam va être dans une dépression nerveuse absolument généralisée. Et Hannah Arendt dit la même chose. Elle dit c'est une société de travailleurs qu'on va délivrer des chaînes du travail. Donc, à partir de là, on va se retrouver dans ce vertige. Et donc, il va falloir apprendre. Parce que c'est bien beau de dire, écoute tes aspirations profondes, mais n'empêche que si j'ai pas eu le loisir jusque-là de le faire, si j'ai pas eu des espaces dans lesquels je pouvais dialoguer avec d'autres pour apprendre à le faire. Vous savez, toutes ces conversations qu'on peut avoir les uns et les autres, parfois de façon très privilégiée, avec tel ou tel ami, et toi, qu'est-ce que t'aimerais faire profondément de ta vie? Quels sont tes rêves? Quels sont tes idéaux? Bien ça, je pense que ça demande une véritable culture, une véritable initiation, et des espaces sociaux dans lesquels on va pouvoir
faire ça. Vous proposez notamment des écoles du temps libre, où on puisse chacun... s'élever collectivement.
Moi, j'appelle ça des maisons du temps libéré. Oui. Vous voyez, des maisons du temps libéré, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles... Alors, ça peut être aussi sur le net, hein, c'est-à-dire tous les coups sont permis, là, au sens où ça va être en direct physiquement, mais ça va être aussi sur les réseaux, s'interroger ensemble sur quelque chose qu'on pourrait faire d'un peu plus intelligent de nos vies que de passer notre temps à travailler.
Quel beau programme.
J'ai hâte.
C'est vendeur, en tout cas.
Non, c'est le moment. C'est le moment, oui. Pourquoi ? Parce que on a aujourd'hui, en tant qu'humanité, une capacité à produire de la richesse qui est absolument faramineuse. Et je crois qu'on n'a pas encore actualisé notre réflexion sur le travail, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas égalisé à ce moment de civilisation dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on continue comme avant de faire comme si on devait travailler beaucoup. C'est-à-dire comme au temps où on avait du mal par le travail à produire de la richesse. C'est plus du tout vrai aujourd'hui. D'ailleurs, les grands économistes le disent. Ils disent non seulement on aurait les moyens de mettre la pauvreté au musée, mais même le travail tel que nous le connaissons au musée. Donc en fait, par habitude, d'une certaine façon, on maintient le système de l'individu au travail. Attention, hein, la question aussi, c'est à qui profite le crime, ou plus exactement, à qui profite le système, en l'occurrence à ceux qui accumulent les profits du travail, hein, pour en reverser aux individus toujours la plus petite part possible. Et donc, je crois que le moment est venu d'une grande réflexion radicale, c'est-à-dire reprendre les choses à la racine, sur le travail aujourd'hui, la place qu'il occupe dans nos vies.
Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation aux éditions Les Liens qui Libèrent. Abdennour Bidar est avec nous jusqu'à 18h. On parlait de vertige, ceux de l'amour nous sont racontés par Alain Bachung.
J'ai crevé l'oreille, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Circuits sont niqués, puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des sphères à Saigon, j'm'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découpe suivant les points, des points qui vertige de l'amour. Désir fou que rien ne chasse, cœur transi reste sourd en glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire.
Sur France Inter, par Jupiter, et c'est le philosophe Abdennour Bidar qui nous accompagne, qui propose de nous libérer de nos chaînes du travail et de la consommation, notamment avec la mise en place d'un revenu universel, livre paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alex Vizorek pour entourer Abdennour Bidar.
Ce pauvre homme va devoir supporter une chronique de Chewbacca, parler avec des gens décédés à cause de Christine Gonzalez, et puis voir son livre jugé par Juliette Arnaud. Dure journée, heureusement Frédéric Fromet arrivera pour clôturer
l'émission. Et en plus, vous allez devoir subir les brèves, ça c'est le pire. C'est
le pire. Macron.
Le journal de presque 17h17.
J'ai sauté, oh mes frères, et je me suis fichu par terre.
Et on commence par les titres.
La popularité de Nicolas Hulot dégringole à gauche.
Et oui, la popularité de Nicolas Hulot est en raccord avec l'écologie, elle est mal en point.
Les bistrots parisiens pourraient faire leur entrée au patrimoine mondial de l'humanité.
Et c'est vrai qu'un café en terrasse à 18 euros, il ne faut pas que l'humanité oublie ça. Ça a existé un jour.
Des brèves.
Oui, car je milite pour l'incorporation des brèves au patrimoine mondial de l'humanité aussi. A priori, c'est bien parti.
On commence par la politique française.
Oui, un tract fait polémique chez Les Républicains car on y retrouve cette phrase « Pour que la France reste la France ».
Virginie Calmels déplore notamment que ce tract n'ait pas été validé par les instances juridiques du parti.
Merde, il y a des instances juridiques chez Les Républicains. Mais comment Sarkozy est devenu président du parti? Très très étrange.
Et LR toujours, oui. François Fillon a été invité en secret à Matignon par Édouard Philippe.
C'est dingue, même quand Fillon est invité quelque part, c'est fictif.
Allez, international, allons en Italie.
Matteo Salvini, le nouveau ministre de l'Intérieur italien et chef du parti d'extrême droite, la Ligue, est monté dans un bus à Rome. Et voici le son d'une vidéo amateur. Des gens se sont mis à chanter.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io voglio, mon partigiano.
Il ne les a pas regardés. Mais c'était mignon. Donc si vous croisez Marine Le Pen dans les transports en commun, on chante tous du Faudel. Hein, ça va lui faire plaisir.
Autre vidéo aux Pays-Bas. On y voit le Premier ministre passant la serpillière au Parlement. Les réseaux sociaux ont applaudi.
Oui, c'est en France qu'on verrait ça. Enfin, on verrait plutôt un président prendre le Premier ministre pour une serpillière. Ça, c'est possible.
France, où la section antiterroriste vient d'arrêter un Irakien suspecté d'être un haut responsable de l'État islamique et qui s'était réfugié dans le Calvados.
Oui, se réfugier dans le Calvados pour éviter ses anciennes idées. Peut-être que Elisabeth Lévy devrait s'en inspirer.
En transition, accusé de viol, Tariq Ramadan a fini par reconnaître des relations extra-conjugales.
Et c'est pas mal comme technique. Un petit peu comme si Jérôme Cahuzac reconnaissait avoir déjà fraudé dans le métro.
Continuons avec cette étude. Un ado sur 5 regarde du porno au moins une fois par semaine.
Et c'est à ça qu'on voit qu'on est tous un petit peu restés des grands enfants.
Allez, la Coupe du Monde, car le maillot des Bleus est déjà en rupture de stock.
Alors, oui, comme souvent, évidemment, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On peut soit se réjouir de l'engouement autour de l'équipe de France.
Soit
se dire que franchement, la cadence au travail des petits Chinois, eh ben, c'est plus ce que c'était.
Allez, les brèves.
Les brèves, Brésil. Un bébé survit miraculeusement après avoir été enterré pendant 7 heures. Apparemment, les parents avaient pris au pied de la lettre planter la petite graine.
La dernière, en Argentine, des individus braquent une imprimerie et volent pour 300 000 euros de vignettes Panini.
Voilà, merci Charline.
Hein ? Comment ça, merci Charline ? Faites pas de vanne derrière ?
Non, 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 merci Charline, c'est la fin du 17h17.
On passe à autre chose !
Alex, ne me dites pas que c'est
vous. Oui, qu'est-ce que vous faites, vous, s'il vous manque la vignette de Mbappé ? Eh ben, voilà.
C'est donc vous ? 17h26, sur France Inter, Abdennour Bidar en notre compagnie. Avec ce premier sujet, on va parler d'enseignement, car la France manque d'enseignants. La solution avancée par la Cour des comptes, c'est justement d'avancer le recrutement au bac plus 3 plutôt que bac plus 5. Alors, il y a un autre écueil, c'est aussi le manque de valorisation du métier, bien sûr. Autrement dit, il faut être sacrément motivé. Rassurez-vous, il y en a très tôt.
Moi, j'irai à l'école jusqu'à 65 ans.
Jusqu'à 65 ans.
Oui, institutrice.
C'est pas un mauvais métier. Il y a la retraite.
Retraite, mon cul. Moi, c'est pas pour la retraite.
Mais alors, pourquoi que tu veux l'être institutrice?
Pour faire chier les mômes. C'est quand mon âge dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, dans 1000 ans. Toujours des gosses à emmerder. J'aurai les vaches comme t'es avec elle. J'en ferai lécher le parquet. J'en ferai manger l'éponge des tableaux noirs. J'en renfoncerai les compas dans le derrière. Je leur botterai les fesses. Parce que j'aurais des bottes en hiver, avec des grands éperons pour leur larder la peau du derche.
Zazie dans le métro, le film de Louis Malle avec Catherine de Mongeau et Philippe Noiret. Abdennour Bidar, que pensez-vous de cette idée? Donc, on manque d'enseignants en France, le métier est très dévalorisé. Il travaille parfois dans des conditions aussi assez terribles dans les écoles publiques. Est-ce que avancer à bac plus 3 l'ouverture au concours et la possibilité de devenir enseignant, vous pensez que c'est une bonne solution ?
Je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, il est certain qu'il s'agit aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui se dirigent vers ce métier-là. Et j'ai envie de leur dire, vous savez, moi j'ai enseigné la philosophie pendant 20 ans.
Ouais.
Et ben, c'est un beau métier. C'est un métier qui est extrêmement difficile, parce que je peux vous dire que vous retrouvez le matin devant une classe qui n'a pas forcément envie de vous écouter, qui n'a pas forcément envie de discuter avec vous, qui n'a pas forcément envie de vous suivre. Bah, c'est un challenge toujours recommencé, mais ça fait partie des métiers qui ont du sens. Et ça, ça n'a pas de prix. Hein. Tout ce qui a de la valeur, ça n'a pas de prix. Donc moi, j'encourage énormément à aller vers ce métier-là. Ce qui est l'occasion de dire, c'est pas encore une fois pour ramener ma fraise avec le revenu universel, mais enfin quand même, quand je parle du revenu universel et du temps libéré, l'idée que, eh bien, on pourrait faire autre chose que travailler. C'est pas la fin du travail, il faut pas imaginer que ça va être un exode généralisé hors du travail et qu'on va tous faire autre chose. Mais c'est l'occasion justement de pouvoir choisir ce qu'on fait. Et en l'occurrence, choisir des métiers qui ont du sens. Et ce qui est extraordinaire avec l'éducation, c'est que ça fait partie des métiers qui ont du sens.
Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir les conséquences parce qu'il y a des métiers où on est derrière l'ordinateur, on remplit des cases, etc. Et on ne voit pas le, qu'on dirait le produit fini, comme en usine, quand on met des pièces, on voit la bagnole sortir de l'usine.
Voilà, sauf que là, ce n'est pas une bagnole, c'est des êtres humains, c'est des enfants. Donc c'est absolument extraordinaire au jour le jour de pouvoir les éveiller, de pouvoir discuter avec eux sur tout un ensemble de sujets, de participer à leur ouverture au monde, etc. Donc moi, j'encourage énormément à aller vers ce métier. Mais, le grand bémol, c'est qu'il y a deux difficultés. La première, c'est que souvent, l'image qui est donnée de l'école, c'est l'image d'un lieu qui est à feu et à sang avec des sauvageons qui n'ont plus du tout aucun respect pour l'autorité du prof. Ouais. Je pense qu'il faut absolument relativiser. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits encore aujourd'hui où ça se passe bien. Et même dans les endroits où ça se passe pas mal tous les jours. Et c'est pas Beyrouth non plus. Hein, c'est-à-dire que, aujourd'hui, c'est encore l'école, c'est encore un lieu où il se passe des choses absolument formidables. Premier point. Mais deuxième point, il faut penser à la façon dont on rémunère les gens. Et ça, c'est extrêmement important. Et un des aspects du revenu universel, dont on parle très peu, c'est qu'il serait cumulable avec le revenu d'un travail. Mmh. Et donc là, il y aurait un moyen supplémentaire de proposer aux gens un métier qui ne serait pas leur seule source de revenus, alors qu'aujourd'hui, ce qui fait hésiter beaucoup de monde, c'est qu'on est quand même dans un système où la vie est extrêmement chère, il faut payer son loyer, il faut mettre de l'argent, de l'essence dans sa bagnole, et la plupart des salaires qu'on nous propose, beaucoup trop de salaires qu'on nous propose, sont des salaires qui sont trop bas. Et donc, c'est pas parce que les gens sont, égoïstes, etc., etc., c'est que tout simplement, ils sont conditionnés à réfléchir à ce que ça va leur rapporter.
Et enseignant, est-ce que c'est pas aussi un des rares métiers où il est difficile de pouvoir se projeter dans passer un cap et évoluer dans la hiérarchie. C'est-à-dire que quand on commence sa carrière comme prof, on sera toute sa vie prof. Il y en a peut-être un qui deviendra proviseur. Mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté là aussi de se dire si je rentre dans cette carrière, je ferai la même chose toute ma vie et je ne peux pas songer à évoluer, ce qui peut être une consolation pour un salaire moindre.
Au mieux Claude Allègre.
Exactement.
Non, s'il vous plaît, parce que là, ça casse complètement le truc, là.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui se disent ça, qui se disent, moi, j'ai envie d'évoluer, et là, il n'y a pas de possibilité d'évolution?
C'est pas une prison non plus, hein. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on a des générations qui arrivent, qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir découvrir plusieurs métiers au cours de leur vie professionnelle.
Ouais.
Donc, en fait, même si, effectivement, ça fait pas partie des métiers dans lesquels on peut peut-être assouvir une ambition très importante, et d'ailleurs, ça nous amène aussi à nous poser une question.
Pourquoi
avoir de l'ambition dans la vie professionnelle, de franchir forcément des étapes? À partir du moment où on a trouvé un métier qui est justement source d'épanouissement et d'accomplissement personnel. Moi, je vois plein de profs âgés heureux. Heureux parce que, alors il y en a d'autres qui...
Chaque année, les classes sont différentes, on a des surprises.
Des surprises. Et puis c'est vraiment, vous savez, qu'est-ce qui nous permet de nous renouveler, nous les êtres humains? Il y a des ressources intérieures, mais il y a aussi la qualité de la relation qu'on a avec l'autre. Et quand on a devant soi des jeunes qui arrivent chaque année avec leur joie de vivre, leur enthousiasme, leur appétit, etc., quand on sait entretenir une vraie relation avec eux, ils nous régénèrent. Moi, je l'ai vu, véritablement. Mmh. C'est un métier qui est fatigant, c'est prenant, parce que, il faut tenir une classe, quand on a 5 heures, 6 heures, 7 heures de cours.
Plus les corrections.
Dans la journée. Plus les corrections. Alors, en philo, je peux vous dire que les corrections de copies, c'est un long fleuve, pas tranquille du tout, hein.
Si on se régénérait avec un petit peu de musique, Abdennour Bidar, c'est une bonne solution aussi, ça. Quand on aura le revenu universel, on pourra en écouter plein.
Ou en faire. Ou en faire. Justement. Aïe. Parlons peu et parlons bien, parlons slow. Vous savez, ce truc antidiluvien ou encore couvert d'acné, les couples connaissaient leurs premiers émois. Le slow, c'était donc cette danse, un poil social, que même un dyslexique des pieds comme moi arrivait à danser sans se prendre le tapis. Le slow, c'était aussi ce frotti-frotta responsable où on devinait le corps de l'autre en même temps que son haleine buccale. C'était une danse de vérité. On se prenait un râteau en direct devant tout le monde ou alors on frimait en fermant les yeux bouche contre bouche. Et pendant presque 40 ans, en fait, depuis le milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 80.
Attendez, parce qu'il y a un bruit.
Oui, non, mais c'est comme c'est normal, tu vas voir, c'est le slow. Aucune major de l'industrie du disque n'aurait imaginé ne pas sortir le fameux slow de l'été. Donc de la variété au hard rock version grand public, il était difficile de ne pas voir figurer un disque. Dans un disque d'été, c'est 3 minutes de musique au ralenti. Savamment orchestrée, à la ritournelle entêtante et aux paroles un peu mièvres. Mais qui auront le pouvoir de vous cogner comme ça dans votre petite mémoire une fois rentré chez vous avec votre sac de coquillages pas encore déballé? Oui, il y a une sorte de poésie en fait, toute populaire dans le slow. Une démocratisation à l'extrême, l'idée d'une danse pour timide, d'un accroche-cœur pour danseurs réservés, alors pas besoin de techniques, ni sportifs, de haut niveau, c'est du facile, c'est du tactique. Et pourtant, fini le boulevard des slows. Eh bien non, voilà.
Non,
oh, heureusement pour nous, un garçon du nom d'Uzé vient de remettre le couvert. Et il sort le grand jeu. Uzé navigue dans cette famille de faiseurs de musique qui ont 10 projets en même temps. On retrouve son nom dans des groupes comme Les Morts Vont Bien, Sultan Solitude ou Yvette Corner. Et j'en passe. Et Uzé n'en est pas à son premier défi. Il y a quelques années, en réaction à la fermeture d'une salle dont il s'occupait à Amiens, il s'est présenté aux élections municipales avec son parti Sensible, le parti qui n'a pas de cible donc. Hein. Et il avait obtenu quand même 2,5% des voix en ralliant la scène culturelle locale. Aujourd'hui, la salle de concert est réouverte et il en fallait de l'obstination et Usé en a puisqu'il s'attaque au slow. Et quand vous écoutez ses disques, cette démarche peut paraître un peu anachronique puisque sur scène, il frappe sa batterie, sa guitare et ses claviers avec un plaisir communicatif. Eh bien, son idée du slow, c'est pareil. Parce que pour écrire un beau slow, il faut aimer ça. Alors, le prochain succès de l'été aura donc pour titre « J'ai dansé un slow avec un flic ». C'est un morceau cinématographique. Il faut vous imaginer au milieu d'une manif, l'image passe au ralenti. Un couple, prenons un manifestant, un CRS, avant l'assaut final. Ils se toisent, s'observent, et puis hop, la musique commence, les corps se rapprochent, de loin, on fait déjà connaissance. Pendant que l'un évite un boulon avec grâce, l'autre dévie la matraque qui devait s'abattre sur son crâne. Les corps sont las, on danse sans même s'en rendre compte. Donc en exclusivité jupitérienne, la violence au ralenti, le slow de l'été et des manifs, j'ai dansé un slow avec un flic parusé.
Quand on s'entortille, tu lances ton fumigène. Soudain, j'ai les yeux qui saignent. Putain de l'horreur, à coup de taser, tu m'as déchiré le cœur. J'avais jamais dansé un slow avec un flic. Le slow, le seul unique. J'avais jamais dansé un slow avec un flic. Un slow si pathétique. On m'a appris petit qu'un flic te veut du bien, qu'un flic te tend la main. J'ai grandi depuis, douleur dans mon trou de balle, câlin, gilet par balle. Alors allez danser, un slow avec un flic, le slow, le seul unique. Alors allez danser. Un slow avec un flic, le slow maléfique. Mmh.
s'appelle Usé, U-S-E. Il vient d'Amiens, il enregistre chez lui. Et là, c'est danser un slow avec un flic.
Sous le label Born Bad.
Merci beaucoup, Djoubaka. Il est 17h38 sur France Inter. C'est Abdennour Bidar qui nous accompagne, le philosophe qui publie Libérons-nous. Mais de quoi ? Eh bien, des chaînes du travail et de la consommation. C'est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure et on aura encore deux, trois petites questions à vous poser à ce sujet. En attendant, Christine Gonzalez qui nous vient de Suisse. C'est son moment.
Non, non, Christine Lopez.
Ah !
Rendez-vous en terre inconnue après les lolos noirs dans les montagnes du nord-est du Vietnam, les miaos de Chine et les quechua du Pérou. Nous vous emmenons à la rencontre de peuplades reculées de l'au-delà. Qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Pour le savoir, je pars en voyage avec Juliette Arnaud, comédienne, scénariste, chroniqueuse. Elle aime les livres et la vodka. Saura-t-elle s'adapter au monde parfois rugueux de l'au-delà? On va le savoir. Pour cela, rendez-vous en terre inconnue. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Tout va bien?
Ah ouais, je suis super excitée.
Savez-vous où je vous emmène ?
En Amazonie ?
Non.
Cordillère des Andes ?
Non.
Bah, où alors ?
Dans l'au-delà.
L'au-delà ?
Oui, mais pas n'importe quel au-delà. Nous irons à la rencontre d'un peuple en marge.
Les Korowai de l'au-delà ?
Non.
Les hommes-fleurs Mentawai de l'au-delà ?
Non. Les Suisses de l'au-delà.
Ah, les Suisses.
Quelle chance.
Oui. On y va ?
D'accord.
Allez, c'est parti. La Suisse. Sur Terre, comme dans l'au-delà, est un être discret. D'apparence froide, mais très chaleureux, une fois apprivoisé. Il faut l'approcher en douceur, hein, d'accord Juliette ?
Oui, oui, oui.
Hein, pas trop dérangé, il est très craintif. Il aime pas trop les vivants, encore moins les Français.
Eh, promis, je gueule pas !
Non, vous gueulez pas. Bon, parfait. Alors, ah, j'en vois un par là, oui.
On peut s'approcher ?
Oui, bien sûr. Mais il a l'air de parler tout seul.
Wenn man das absetzt, also wie man später aufführt mit der Hatteier.
Alors là, c'est une espèce très très reculée de la Suisse. C'est un Suisse allemand.
C'est vrai qu'il a l'air différent.
En effet. En plus, c'est un être très à part. C'est un Bernois.
Un Bernois ?
Un Bernois, oui. Peut-être voudra-t-il communiquer avec nous, monsieur ?
Oui.
Ah, mais c'est Dürrenmatt. Comment allez-vous ?
C'est aujourd'hui tout à fait la liberté.
Ouais, Juliette, je sais que vous ne connaissez pas ici. Je vous présente Friedrich Dürrenmatt, c'est un écrivain mort très très célèbre en Suisse. Hein.
Bonjour ! Moi, Juliette !
C'est une roulette.
Non, 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 alors pas roulette, Juliette !
C'est surtout difficile en français pour moi.
Moi, très honorée !
Non, mais ça, on laisse tomber Juliette, non, franchement, on va trouver quelqu'un d'autre, on bouge d'ici. Là. Ah, regardez Juliette, il y a une femme là-bas.
Ah oui, une femme, c'est bien, mais c'est bien.
C'est Ella Maillard, vous connaissez Ella Maillard ?
Bah bien sûr, l'écrivaine ! Mais c'est une Suisse, elle !
Oui, alors c'est une autre particularité du Suisse, qu'il soit mort ou vivant. Dès qu'il est un tout petit peu connu à l'étranger, on oublie instantanément qu'il est Suisse. Voilà. Alors venez, on s'approche d'elle, vous pouvez lui parler, hein, n'hésitez pas, allez-y.
Bonjour Ella Maillard, alors je m'appelle Juliette et je suis ravie de vous rencontrer.
Vous et moi, il y a un mystère qui nous permet d'échanger quelque chose.
La Suisse de l'au-delà, racontez-nous à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on voit au loin ?
Des femmes à califourchon sur des poneys ébouriffés, mais leur visage disparaît sous un voile de crin noir, semblable au Tchédra de Boukhara.
N'est-ce pas fascinant, Juliette ?
Ah oui, si, c'est bouleversant.
Ella Maillard, Juliette est avec nous pour vivre une expérience forte. Quel message voulez-vous lui transmettre ?
Que cette grande construction cosmique de tous les astres et du soleil et tout ça forme un tout et que je suis au milieu de ce tout.
Mais dites, Ella Maillard, est-ce que la vie est difficile aux marges de l'au-delà, éloignée des autres morts ?
La vie est terriblement difficile.
Ouais, je comprends. Pour moi aussi, la vie est difficile parfois.
C'est aussi difficile pour vous, Juliette ?
Ah ouais, ouais, ouais.
Mais quand, par exemple ?
Ben, par exemple, récemment, Charline m'a forcé à lire le nouveau roman de Joël Dicker.
Ah, ouais. Effectivement, ça c'est difficile, hein, Ella Maillard.
Et c'est vraiment trop pénible. Ouais. Ça, c'est vraiment... Au-delà de mes forces.
Oui, je comprends. Bon, voilà, Juliette, c'est la fin du voyage dans la Suisse reculée de l'au-delà. Il faut dire au revoir.
Hein. Là, maintenant ?
Oui, 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 oui.
Bah, merci, Ella. C'est une rencontre magnifique.
Oui, vous avez raison.
À quelques centaines de milliers de kilomètres d'altitude, Juliette Arnaud a pu côtoyer des peuplades lointaines et sauvages. La Suisse de l'au-delà. Une Suisse différente, où il fait bon passer son éternité. Merci à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation et à Anne-Laure Cochet en régie. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous en Terre inconnue.
Bravo et merci Christine Gonzalez avec Juliette Arnaud. Donc vos archives, là, vous êtes allée les puiser où ?
À la radio-télévision suisse.
Très bien,
madame.
On salue nos confrères et nos consoeurs. Des radios francophones publiques d'ailleurs en général. Merci beaucoup Christine Gonzalez. Nous sommes avec Abdennour Bidar, le philosophe, qui publie Libérons-nous. Et donc on a trouvé un sujet qui, je pense, va beaucoup vous amuser. Vous aussi chez vous, c'est un nouveau boulot qui est apparu aux États-Unis et qui ne tardera sans doute pas à être importé en France. C'est chargeur de trottinettes électriques. Ça consiste à récupérer les trottinettes qu'on a repérées, de les recharger le soir chez soi et d'aller les remettre en ville. C'est un chargeur d'Uber trottinette, si vous voulez, un nouveau job de merde. Il faut dire qu'en la matière de job de merde, on a tous l'embarras du choix en ce moment.
Tu vois, à ton âge, j'avais pas de métier. Je traînais, je sais pas comment je l'aurais tourné, puis je suis tombé sur un ancien qui m'a formé. Ce que je fais aujourd'hui pour toi, il l'a fait pour moi. Grâce à lui, m'en suis tiré, quoi. Pour le père ou notre bien, mais enfin. Regarde tous les mômes qui viennent ici, c'est tous des paumés. Jojo, qu'est-ce qu'il a comme boulot ? Il est manœuvre. Raymond, il est livreur. Pierrot, il est débardeur à Bercy. Et toi ? Pourquoi crois-tu que tu l'aimes ?
Parce que j'ai rien pour moi dans la vie. Rien que ma force. C'est le seul métier où je puisse peut-être devenir quelqu'un.
L'air de Paris, film de Marcel Carné. Alors l'apparition de ce nouveau métier, chargeur de trottinette, dans plusieurs états américains, ne requiert aucune compétence et même quasi aucune formalité. Abdennour Bidar, est-ce que c'est une aubaine ou une catastrophe pour notre société ?
C'est ce que vous avez appelé, j'ai beaucoup aimé le concept, philosophiquement ça me parle, de job de merde. Voilà, mais là on est peut-être à un niveau d'abstraction philosophique un peu élevé. Donc
vous voulez
dire
que j'avais mis la réponse dans le lancement, c'est ça ?
Voilà, exactement. Non, c'est un symptôme. Oui. C'est le symptôme d'une société qui va mal du côté du travail, c'est-à-dire dans laquelle des gens sont tellement aux abois qu'ils sont obligés d'accepter n'importe quel boulot absurde comme celui dont on vient de parler, parce que ça n'a aucun sens.
Mais qui rapporte, là, d'après l'article, alors c'est publié dans Courrier International, c'est un extrait de The Atlantic, journal de Washington.
Oui, alors pour poursuivre l'élaboration du concept, en général, quand même, le job de merde est sous-payé. C'est-à-dire que là, c'est vraiment double peine, sans intérêt et sous-payé. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés, et là on rigole plus du tout, enfin vous avez le droit de continuer à rigoler, bien entendu, là où c'est vraiment tragique, et où ça nous interroge en profondeur, c'est que c'est le phénomène des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui sont obligés de cumuler deux jobs, trois jobs, dont chacun est sans intérêt et tout aussi sous-payé que les deux autres. Donc en fait, on fabrique un prolétariat de travailleurs qui accroît encore la crise du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ceux qui n'ont pas de boulot et qui en cherchent un en vain, il y a ceux qui en ont un mais qui n'y tiennent pas parce que c'est un boulot qui les esclavagise. Il faut appeler les choses par leur nom parce qu'il y a esclavage quand il y a domination, quand il y a violence.
Et on nous fait croire que c'est du boulot. Donc on peut dire
et
je
on
travaille.
On nous fait croire que c'est du boulot. Mmh. Et d'une certaine façon, on entretient l'illusion qu'il va pouvoir encore y avoir du boulot pour tout le monde alors que c'est plus du tout d'actualité. Et c'est pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, le sens de la civilisation, c'est-à-dire d'une civilisation qui se passe de plus en plus de travail humain. Regardez le débat aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Ça va vouloir dire quoi concrètement ? Quel impact ça va avoir sur l'organisation du travail ? Le fait que déjà des machines automatisées nous remplacent aujourd'hui, mais si en plus elles sont dotées d'une intelligence artificielle, ça veut dire que sur tout l'éventail des travaux les plus élémentaires jusqu'aux tâches les plus complexes, nous, les êtres humains, il va falloir qu'on trouve autre chose à faire que travailler parce que tout simplement les machines seront plus efficaces et plus intelligentes.
Il y a un des chargeur qui dit c'est comme si on jouait à Pokémon Go mais on est payé pour trouver des Pokémon parce qu'il faut retrouver des trottinettes pour aller les remettre. Voilà. Donc en gros il explique que il fait un travail qui pourrait être un jeu et que donc s'il n'avait pas de travail à faire, peut-être il jouerait à Pokémon Go et ça
la nuit parce que c'est la nuit que ça se passe.
Oui, alors sauf qu'un jeu, on choisit d'y jouer. C'est-à-dire que là,
il dit à demi mot qu'il choisit plutôt d'aller charger les trottinettes. J'essaye de vous contredire, c'est pas contre vous, ne me regardez pas méchamment. c'est-à-dire que lui, il estime que c'est plutôt rigolo et qu'en plus on le paye pour ça.
Mais parce que c'est un étudiant.
Je crois que dans
et qu'il va pas faire ça très longtemps
Nick,
et que c'est son deuxième jour de travail.
C'est
Nick et c'est son deuxième
jour
de travail.
Mais peut-être que les Pokémon parce qu'ils payeraient pour jouer à Pokémon. C'est ça qui est rigolo.
Non mais moi je vous regardais pas méchamment.
Non, vous aviez l'air de me regarder comme si j'essayais de contre.
Non, en fait vous me faites réfléchir.
C'était l'objectif, ça, je suis content déjà.
C'est réussi. Comme vous le dites, ça fait partie des jobs qu'on accepte pendant un certain temps. Effectivement, ça peut nous amuser deux minutes, mais quand on a une vie à construire, parce que c'est ça qui est en jeu derrière, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, les êtres humains, enfin, si on est encore un petit peu humain, eh bien, c'est de donner du sens à ce qu'on fait et trouver quelque chose qui nous permet de mettre en accord notre engagement dans la vie et notre, si j'étais exalté, je dirais notre moi profond.
L'idéal culturel bobo d'imaginer qu'on va faire de la musique, qu'on va aller au musée, qu'on va se
culturer. Super, c'est la question Rotel-Krieff. J'allais vous le demander. Le revenu universel, Abdelnour Bidar, un truc de bobo, point d'interrogation. Ah bah,
là où c'est pas un truc de bobo, c'est que tous ceux qui mettent en place aujourd'hui le revenu universel le font d'abord pour un objectif qui est de réduire la pauvreté. C'est aussi simple que ça. Et là, on n'est pas dans un problème de bobo. Regardez aujourd'hui, il y a une énorme actualité du revenu universel. Il y a 13 présidents de conseils départementaux qui viennent de lancer une expérimentation grandeur réelle dans leur département. C'est pas pour les bobos, leur département. Ils le font parce que ils ont un argument. Et cet argument, c'est regarder le caractère scandaleux et indécent de l'insuffisance des minima sociaux. On donne des minima sociaux aux gens comme si c'était un véritable filet de sécurité contre la pauvreté. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça ne fait qu'enfoncer encore la tête des gens sous l'eau.
Et donc c'est intéressant de voir que Benoît Hamon, qui avait porté ce sujet au cœur de la campagne présidentielle, et qui, dont aujourd'hui la voix ne porte plus beaucoup, malheureusement. Merde, j'ai dit malheureusement. J'ai mis la réponse dans la question. Là, la question rejaillit à un autre niveau de pouvoir. Et c'est intéressant de voir que c'est à cet autre niveau de pouvoir que la question revient avec un côté plus pratique et plus concret.
Bah, un autre niveau de pouvoir, c'est effectivement des politiques locales. Hein, là où ça se fait finalement, véritablement. Après, je réponds aussi à votre question, ça ne va pas nécessairement pour aller au musée, etc. C'est-à-dire que oui, il y aura toujours des gens qui auront envie de mener une vie culturelle, etc., etc. Mais ça servira, encore une fois, à chacun à se poser la question, mais au fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est pas nécessairement aller dans les musées, ça va être un petit artisanat, ça va être un petit engagement associatif.
Question qu'on ne se pose plus parce qu'on est aliéné par le travail.
Mais qui pourrait même être un travail choisi, c'est ça?
Bah ouais, exactement, un travail choisi. Mais regardez, par exemple, l'engagement associatif. On se dit, mince, j'ai travaillé toute la journée, ou j'arrive à la fin de la semaine, il faut encore que je ressorte de chez moi pour aller m'engager au service des autres. Bah là, ça devient vraiment un luxe. Voilà. Et donc, faire en sorte que ça soit pas un privilège que de s'engager au service du bien commun.
Et concrètement, libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation. C'est donc en plein le sujet du livre d'Abdelnour Bidar. Juliette Arnaud, vous l'avez lu.
Oui, et alors lire un essai sur le revenu universel, ça a une conséquence directe, immédiate. Ça t'oblige à te poser la question de ton rapport au travail, ton rapport intime. Alors le mien, une phrase toute faite dont je n'imagine pas qu'elle n'est conditionnée que moi. Attention, l'oisiveté est mère de tous les vices. Comprendre, si tu ne bosses pas, tu seras un junkie dépravé, tu t'adonneras également à la boisson dans des lieux de perdition en jouant ton RSA au jeu à gratter et en jurant le nom de Dieu. Si tu bosses, tu vas directement au paradis entre le Dalai Lama et Bernadette Soubirou, un verre de Mojito sans alcool à la main. Oui, la vertu, c'est sans alcool, ceci expliquant cela. Assez vite, tu penses, ouais, c'est ça, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Bah oui. En grandissant, tu vois les limites de la phrase. À ce qui me semble, DSK était patron du FMI, pas chômeur longue durée ou punk à chien et à cheveux fer à Rennes. C'est marrant, moi je me figurais que patron du FMI, t'avais quand même 2-3 rendez-vous dans la journée assez prenants, vous voyez ? Un emploi du temps sans trou, où puisse se glisser la mère de tous les vices et ses enfants. C'est rigolo, la vie. C'est couillon, les phrases toutes faites. D'ailleurs, c'est un de vos points de départ, Abdelnour. C'est un refus de la phrase toute faite, de la pensée trop majoritaire. Et donc, vous pensez que vous tenez forcément un truc avec le revenu universel dès lors que l'idée, je vous cite, dresse contre elle la quasi-unanimité de nos élites, dirigeants politiques, journalistes, intellectuels, patrons, entrepreneurs, jeunes loups sortis des meilleures écoles. L'idée, moi, qui m'a marquée dans ce livre, c'est la chose suivante. Mettons qu'on institue mondialement le revenu universel. Mettons qu'on se rende à l'évidence, le pari de moraliser, comme vous dites, le capitalisme a été perdu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ceux qui lâcheront instantanément leur taf tout pourri, tout moche, que feront-ils ? Et c'est d'ailleurs un argument des détracteurs du revenu universel. Ils pensent qu'on ne va pas sortir de notre canapé Netflix et qu'il y aura un genre d'individualisation maximum, une société atomisée. Un risque que vous n'écartez pas d'un revers de la main. Ce que vous remettez en cause, en revanche, c'est ce regard-là sur l'être humain. Un regard qui porte la marque, selon vous, d'une anthropologie délirante, celle qui consiste à voir l'homme comme un animal méchant, égoïste et paresseux. Ceci posé, il va falloir effectivement relever nos manches, même une fois que ça sera institué. Oui, c'est une forme d'utopie, mais pourquoi pas? Et là, somme toute, c'est comme si dans la vraie vie, on avait l'inverse d'une dystopie. Vous savez, ces récits que j'aime tant, comme beaucoup de lecteurs et de spectateurs de notre époque, et dont d'un des précis récurrents est « Bon, c'est la fin du monde ». C'est abominable, c'est l'effroi. Et puis, des ténèbres, naît une lumière, une solution. Alors parfois, c'est un agent pathogène que Brad Pitt trouve au péril de sa vie. Parfois, c'est une vieille chanson toute pourrie qui fait vriller le cerveau des Martiens. Ça, c'est dans Mars Attacks. Là, c'est l'inverse. On est dans le futur, un futur qu'on espère pas trop proche ou pas trop lointain. Hein, merci, j'ai plus 17 ans. Plus personne n'est obligé de faire un taf dégueulasse, indigne ou même juste médiocre. La lumière, donc, on y est. Hein, baignoire de sangria, fontaine de licorne. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est sorti le cul des ronces. Parce qu'il va falloir se déconditionner le cerveau. Mais c'est possible. La preuve. Regardez, la Bastille. Depuis le 15e siècle, la Bastille, c'était une prison. Pas cool. Depuis plus de deux siècles, c'est-à-dire depuis le 14 juillet 1789, la Bastille incarne pour nous l'esprit de la liberté et de l'émancipation. Cool, voyez, c'est possible de se déconditionner. Et puis enfin, Abdénour, vous posez selon moi un argument massif dont le vocabulaire m'a tout de suite emballé. Vous dites « Ne sous-estimons pas l'érotique propre du revenu universel, c'est-à-dire son impact sur notre capacité à désirer et à entreprendre. » Voilà ce qui me semble qui a manqué à Hamon, peut-être aux dernières élections, érotiser un peu les choses et laisser le vice aux autres. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnaud pour cette lecture de Libérons-nous, donc aux éditions Les Liens qui Libèrent. Une réaction peut-être
ah, c'est absolument génial, j'ai envie de rien ajouter, vous avez tout dit. Vraiment bravo,
je
merci beaucoup.
Je peux prendre
des philo
ou pas?
Ah oui, non. Oui, oui, oui. Oui, alors il faut que simplement je vous parle du salaire. Hein. Non, vous avez dit un maître mot, c'est oui, nous, les êtres humains, on peut se déconditionner. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'imaginer le futur comme la répétition du passé. Et je crois qu'au moment où on commémore mai 68, il faut inventer des utopies réalistes. Pas des utopies chimériques, mais des utopies réalistes qui sont en accord vraiment avec les nouvelles possibilités du temps. Mais pour ça, il faut un peu d'imagination créatrice, un petit peu d'audace, et que notre société française eh bien, se désclérose un petit peu. Voilà.
Et d'ailleurs, vous citez aussi Jean Jaurès dans votre livre qui en parlait déjà en disant « Le travail devrait être une fonction et une joie. Il n'est bien souvent qu'une servitude et une souffrance. Il devrait être le combat de tous les hommes unis contre les choses, contre les fatalités de la nature et les misères de la vie. Il est le combat des hommes entre eux, se disputant les jouissances par la ruse, l'âpreté au gain, l'oppression des faibles et toutes les violences de la concurrence illimitée. » Voilà pour ce livre qu'on vous conseille chaleureusement si cette question du revenu universel vous intéresse avec les pistes pour plonger dans le vide et le temps équilibré. Abdénour Bidart, qui vient d'entrer dans ce studio?
Je l'ai vu et sur internet on m'a dit demain qu'il sera à Montmorillon. Est-ce que c'est vrai Frédéric Fromet?
Exactement.
Et oui, les gens sont au courant. De quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, vendredi prochain, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans.
Non.
Et pour cet anniversaire, je vous emmène à la Madeleine où l'info est authentique. L'ensemble vocal de l'église interprétera des cantiques sur des musiques de Johnny. Notre Père qui êtes aux cieux, notre Père qui êtes aux cieux, que soit sanctifié ton nom sans cancer du poumon. Notre Père qui êtes aux cieux, notre Père qui êtes aux cieux, que ta volonté soit faite, mais rends-nous Jean-Philippe Smet. Donne-nous des potins dans Closer chaque jour, pardonne-nous, nous les groupies, comme nous pardonnons aussi à notre tour à ceux qui se foutent de nous, de Johnny. Cocaïnum, cigarettum, cancerum, problemum, testamentum, passez les sur exil fiscalum, pourvu que la moto fasse vroom vroom. Notre Père qui êtes aux cieux, et Johnny qui va guère mieux. On a tous en nous quelque chose de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Sainte-Boutin et de l'Opus Dei. De temps à autre la pédophilie. Dieu est amour, le curé aussi. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, des petits garçons dans la sacristie. Viens par ici et mets-toi tout nu. Montre-moi ton petit Jésus. Johnny revient, Johnny revient, Johnny revient parmi les tiens. Au moins pour l'ambiance avec Laetitia, avec David, avec Laura. Johnny revient, Johnny revient, Johnny revient parmi les tiens. Dans les bureaux de tabac, ce serait l'occasion d'afficher tes métastases. Johnny revient, Johnny revient, Johnny revient parmi les tiens. Une fois par mois, tu verras des centaines de cons qui chantent à la Madeleine.
Amen. Merci Frédéric Fromet. Et merci. Voici une belle idée de reportage pour Guillaume Meurice, qu'on salue. Merci beaucoup Abdennour Bidar,
merci.
D'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle votre ouvrage, Libérons-nous des chaînes du travail et de la consommation, édition Les Liens qui Libèrent, ouvrage qu'on vous recommande chaudement. Et merci beaucoup à notre équipe, Nathalie Romero, Marion Lelay, Sarah Masson à la préparation avec Mathias Volant, notre stagiaire, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, Anne-Laure Cochet à la technique, Antoine Asdé et un certain Frédéric Fromet qui nous a accompagnés cette semaine pour les blagounettes et l'éditorial. Merci à tous, on se retrouve lundi avec Antoine Duléry. Et voici le mot de la fin à tous ceux qui ne respectent jamais les règles.
Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3, soleil. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant.